États-Unis, on atteint cette semaine un nouveau chapitre. Hein? Les actionnaires de Warner Brothers Discovery viennent d'approuver cette semaine le rachat par Paramount Skydance, qui va faire passer la chaîne CNN sous le contrôle de David Ellison, un proche de Donald Trump par son père Larry. D'ailleurs, David Ellison a fêté ça en donnant un souper plein d'oligarques en l'honneur et en présence du président Trump cette semaine. L'an dernier, il avait acquis CBS. C'est une autre manière pour le pouvoir d'assurer une prolongation des idéologies.
Trump, Trump, gaga, gougou, gaga, gougou, Trump, 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 gaga, gougou, gaga, gougou, Trump, Trump.
Dominique Moret. Moret. Vous avez commencé à 17 ans à la radio. Live. Et les médias, etc. Et vous avez quitté la télé en 2004 et vous avez rejoint Radio X.
Radio X.
Et alléluia, hein.
Let's go live now from the Tower of Doom.
Mets ton béret, légionnaire.
This is Moret Live.
On devient légionnaire et on reste jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.
From the Radio X World Headquarters, here is your legendary Legion of Doom.
Yes, ben justement, ça va faire la suite de ce qu'on vient d'entendre, l'extrait que vous avez fait jouer, le gaga gougou sur Trump. Je vais être le même gars dans l'émission de Marie-Louise Cipriani. Il a parlé de Boc-Côté, entre autres, il fallait qu'il plug Boc-Côté là-dedans. Une histoire qui se passe en France, là.
Par les médias dont il est propriétaire. Bolloré les utilise pour porter les voix de l'extrême droite. Ça passe par l'édition depuis 3 ans. Oui. Il contrôle le groupe Hachette, donc qui détient cette maison Grasset et Fayard aussi, où il s'est passé ce qu'on anticipe de ce qui va se passer chez Grasset, c'est-à-dire profiter du prestige de la marque pour publier une idéologie. Chez Fayard, c'est Nicolas Sarkozy, Jordan Bardella, Éric Zemmour, des leaders de l'extrême droite, Mathieu Boc-Côté. Alors, il passe aussi par ces médias. Il possède la chaîne d'info ultra-conservatrice CNN News en France, la radio Europe 1, le journal du dimanche où il a écrit, et sa ligne éditoriale est à l'avenant. Et bien sûr, il vilipende les médias publics. Radio France, France Télévisions reçoivent 4 milliards d'euros par année. Pour lui, ce sont des pertes.
Les médias publics passent des bonnes informations. Les médias privés, ben ça, c'est un peu dangereux. Il y a des idées qui diffusent là, qui ne doivent pas être diffusées. Là.
C'est
ça le message sous-jacent de tout ça, là. Et ça arrive dans le privé?
Dans les États démocratiques, au contraire, les manias de la presse voudraient décimer les médias publics en dénonçant leur budget, leur allégeance, leur neutralité, comme si eux n'avaient pas d'intention comme propriétaires de médias. Parce que de William Randolph Hearst à Conrad Black, en passant par Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi, les milliardaires qui possèdent des médias font de la politique. André Desmarais ne se cachait pas d'utiliser la presse pour promouvoir le fédéralisme.
Et
le grand patron de Québécois, c'est l'ancien chef du Parti québécois.
Mais
certains diraient que c'est un autre genre de frérisme. Alors,
mélange avec le frérisme à la fin. Mais le but, encore une fois, eat the rich, les milliardaires, les riches qu'il faudrait taxer plus, juste en passant, là, qui essaient de contrôler le monde.
Ils sont en
guerre.
Il y a tout
ça, là. Oui, ils sont en guerre. Pas à peu près.
Et c'est sous cet angle-là qu'il faut aller analyser les bébelleux de la journée qui sont instrumentalisés. Oui, c'est des caves, c'est des demi-portions. Et vous êtes tanné de me l'entendre dire, bien, attachez vos trucs parce que Boc-Côté va rajouter de la sauce.
Mais avant de parler du show de Marie-Louise, moi, je trouve le show de Marie-Louise pire, là, mais bon.
Ouais, je vais juste continuer mon élan, là. C'est des décisions de programmation, là. Pourquoi ils sont constamment renouvelés? Renouvelés. Ah non, l'émission est finie. On en relance une autre, on appelle ça un autre nom. Et la télé te veut, on te donne un contrat. C'est des contrats pour l'éternité et la fin des temps. C'est une décision du diffuseur avec des gens qui sont responsables en haut. Eux autres, ils s'octroient pas des jobs. Pas même ça marche, là. Moi, je signe un contrat, puis il y a quelqu'un qui va me payer. Non, non. Natacha Mercure, DG Audio-Radio de Radio-Canada, Mélanie Thivierge, première directrice d'ici première. Eux autres autorise et donne le mandat à ces crottés-là de faire la job. Évangéliser woke, la bonne parole, l'entre-soi avec l'évangile progressiste qui va avec. Nous, c'est le bien, on est le camp du bien, eux, c'est le camp du mal, blablabla, bla, bla, vous le savez. Mais au-delà de ça, et ça rejoint le point que tu es en train d'exposer, casser les jambes du privé. D'humilier, diffamer, ridiculiser. Là, c'est TVA, vous l'avez entendu, l'histoire d'Albi Géant. Mais c'est Radio X aussi. Mais ça a été aussi, par en dessous, certains comptes Twitter pas commodes qui harcelaient nos clients. Mais ça, on a réglé ce volet-là. Mais c'était de connivence, là. C'était des alliés, c'était des complices.
Et tout ça avec votre argent.
Et tout ça avec votre argent, là. Et c'est ça qui est salaud, au final. Mais c'est ça, c'est une guerre idéologique. C'est pas une histoire de coqueloun, là. C'est une guerre idéologique active qui est menée pour évangéliser et casser des jambes. C'est une équipe de baseball, là. Ça continue avec l'approbation des hautes instances de la société.
Ça, ce que vous entendiez là, c'est le soir, justement, où tu as eu le nouvel attentat sur Trump, mais c'était pas encore arrivé à ce moment-là. Mais ils savaient que ça s'en venait, la soirée... Pas l'attentat, là. La soirée avec les journalistes, comment t'appelles ça, les correspondants parlementaires, mettons, là, mais en tout cas, aux États-Unis. Donc, ils étaient tous présents. Et là, on nous rappelle que, ouais, Trump, il avait été là dans le temps, Obama. Puis ça a quand même fini bizarre. Essayez de m'expliquer ce qu'il voulait dire par là.
En 2011, Obama faisait ses blagues au moment même où il s'apprêtait à aller éliminer Oussama Bin Laden. On va souhaiter quand même que Donald Trump, qui aime le jeu des comparaisons entre les présidents, ne tente pas un coup du genre ce soir.
Ben ça,
il parle de quoi, là? OK, Trump qui éliminerait un Bin Laden. Pourquoi ça arrive? Pourquoi on serait contre que ça arrive? Puis ça serait qui, le Bin Laden? Je ne sais même pas présentement. Le gars de l'Iran, peut-être, je ne sais pas.
C'est des gens profondément dérangés.
Mais j'imagine, dans sa tête, ça doit être autre chose.
Derangement syndrome.
Je ne sais pas
donc,
ce qu'il
veut dire. Donc, il y a des gens dérangés. Dérangés.
Ben, c'est Radcan un peu à grandeur. Le lendemain, l'émission Tout Terrain, donc qui est le dimanche matin, on revient justement sur la fusillade, ou du moins la tentative de fusillade. Il y a quand même des coups de feu qui ont été tirés dans l'hôtel. Et voici.
Et là, ben, pendant 2-3 secondes, on se dit, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que ce sont vraiment des coups de feu?
Oui, c'est une vraie question, Hugo, parce que nous sommes formés, il faut le rappeler à nos auditeurs, pour être sur le qui-vive, pour savoir reconnaître lorsque nous sommes confrontés à des tirs d'armes. Hein? Est-ce que sur le coup, vos antennes se sont dressées?
Oui, ça a été assez rapide. Peut-être 2-3 secondes d'hésitation où on se demande ce qui s'est passé. Puis là, notre cerveau dit oui, c'est bien des coups de feu que tu as entendus. Mm-hmm. Alors, on fait ce qu'on a appris à faire, ce qu'on a déjà vu à la télé, souvent l'impression d'avoir vécu par procuration parce que ces événements-là sont quand même assez nombreux, malheureusement. Alors, on se jette au sol, on essaie de se mettre à l'abri, sous la table, derrière une chaise.
La manière qu'il raconte ça, là, c'est comme si les journalistes, il y en a un qui se lève, là. Hey! Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel.
Ce sont
des coups de feu que j'entends. Donc, je sais plus quoi faire. Cachons-nous en arrière, en dessous de la table.
Il y a une panique qui s'est installée, là. Comme n'importe quel être humain.
Ben oui, mais Louis se cache en dessous de la table. Tout être humain aurait fait ça.
Non, mais lui.
Mais non, je suis un professionnel.
On a appris ça à l'école.
Je suis un journaliste. Oh, j'ai dû manquer ce cours-là.
Non, c'est ça. Toi, t'étais pas. T'étais parti.
Ouais, je sais pas. J'ai dormi ce matin.
Manger un bain ou un quick. Un quick. Encore une fois.
C'est quoi qui parle, là? On est formé pour ça.
On est formé pour ça. Zéro formé pour ça. Zéro formé pour ça.
Et là, bien sûr. On fait intervenir des chroniqueurs. Là, on va chercher un prof aux États-Unis qui doit être anti-Trump à fond.
Ben
je ne connaissais pas le monsieur. Voici.
Le volume de menaces était grand contre Barack Obama, mais on a quand même l'impression que ça a changé, que c'est encore plus tendu que ça ne l'était. Dites-moi, qu'est-ce qui est en cause selon vous?
Pour moi, cet incident hier montre jusqu'à quel point il y a une épidémie d'accès aux armes à feu aux États-Unis. Ah. Mais en même temps, il faut dire que nous vivons dans une atmosphère où la rhétorique politique soutient ce genre de comportement. Trump lui-même n'hésite pas à attaquer les juges. Trump lui-même n'hésite pas à attaquer de façon
farouche
les journalistes. Il attaque les démocrates. Il traite tous ces gens-là comme les ennemis du peuple. Il n'est pas surprenant, en fin de compte, que nous voyons un tel événement dans cette atmosphère.
Donc, c'est la faute des guns. Puis c'est la faute de Trump qui n'est pas fin avec les journalistes, pas fin avec les juges. Donc, c'est correct de le tuer. Il y a des. C'est automatique, tu fais le lien. Hey, t'attaques les journalistes, donc on peut te tuer. Raphaël Jacob est là aussi autour de la table.
Dès 2016, c'est lui qui disait « Cognez-les » lorsque dans, au milieu des rassemblements. « Cognez-les, je paierai les frais d'avocat. » À Charlottesville, il avait aussi parlé du fait qu'il y avait des bons et des mauvais de chaque côté, alors que c'était l'extrême droite des suprémacistes blancs. Les Proud Boys, reculez-vous, tenez-vous prêts. C'est difficile de penser que Donald Trump lui-même n'a rien à voir avec ce qui se passe, ce qui a cours en ce moment au sud de la frontière.
C'était vrai en 2024. Lors des deux premières tentatives contre lui, évidemment, on ne veut pas blâmer la victime, sauf que dans ce cas-ci, la victime présumée, le président des États-Unis, est un agent peut-être sans parallèle actuellement dans le système politique américain de chaos, de colère, de rage et, dans certains cas même, je veux dire, de façon carrée, de folie.
On ne veut pas blâmer la victime, mais...
Ouais, but...
Ouais, il y a le mais. Ah, ouais, mais vu que c'est Trump... Là, c'est correct, parce que c'est de sa faute. Son discours, ça rend des gens violents, ça rend les gens fous.
Comment il s'appelle le tireur qui a pas tiré, finalement? Cole?
Ben, il a tiré, mais dans le corridor.
C'est ça. Il a tiré sa veste du gars, finalement. Ouais. La veste par balle, ça l'a protégé.
Allen, Cole... Cole Thomas Allen.
OK. Lui, rien à voir.
Non.
Lui, c'est une victime.
Oui, c'est une victime de Trump. C'est Trump qui l'a fait virer fou.
Donc, il faut que Trump soit arrêté.
Oui, parce qu'il rend les gens fous.
Lui, il faut l'honorer. Oui. Lui, il faut qu'il soit reçu à la Maison-Blanche. C'est un survivant de Trump. Non, mais je pousse ça, là. Ben, c'est un survivant des attaques psychologiques de Trump qui l'ont rendu vulnérable à un point tel qu'il est allé chercher une arme. Mais s'il n'y a pas de Trump, le gars continue d'enseigner pareil à Californie, à son école, là. Tu comprends?
Ben oui, oui.
C'est
normalement,
un bon prof, là.
Oui.
Ses élèves sont de bonne humeur, tout. Mais ce gars-là doit être reçu au Congrès. Là. C'est la médaille de bravo. Trump doit être arrêté un matin. C'est ce qu'ils disent.
D'ailleurs,
le prolongement de la logique.
Oui, ben, on a parlé un peu plus tôt de messages de complotistes sur le web qui disent que c'est tout arrangé, c'est pour remonter sa cote de popularité, etc. Ça aussi, c'est la faute de Trump.
Ce que j'entends personnellement depuis maintenant près de 2 ans, ce sont des dizaines de théories qui ne sont pas basés dans les faits. Mm-hmm. Du genre, c'était une pièce de théâtre, le président, l'ancien président, a tout orchestré. Bon.
Mais Howard Gold, on pourrait dire que Donald Trump a lui-même cultivé les théories du complot, notamment avec cette trame qui est revenue si souvent sur le fait qu'il s'était fait voler l'élection de 2020, mais pas que. Et je pense que Raphaël a raison d'en parler parce que cette tentative présumée d'assassinat arrive au moment où le président, lui, est à des sommets d'impopularité.
Oui, ces théories de complot font partie de l'ADN du mouvement MAGA.
Oui, mais là, c'est votre gag, c'est pas le mouvement MAGA, là. Ceux qui sont remplacés, c'est « Ah, mais ça excuse, j'imagine. »
C'est complètement délirant. Moi, je l'ai écouté au complet, ça.
Oui.
Faut dire que Jacob a été mesuré, là, quand même. Ça n'a pas été... Tu sais, il l'a dit 2-3 fois, quand même. Faut pas...
Ça n'a pas été lui le pire.
Blâmer,
ça pas été
lui...
C'est jamais lui le pire, mais il embarque quand même dans la chanson. Là.
Ouais, mais
il veut une paye.
Il accepte, ouais, c'est ça. Il accepte l'invitation. Il embarque dans un train, là.
Tu l'as dit un peu plus tôt.
C'est Radio-Canada Radio.
Hey, Trump, il a présenté la photo du tueur.
Qui s'est empressé de tenir une conférence de presse 30 minutes après les événements, d'évoquer le fait que ça illustrait une fois de plus la nécessité de construire sa salle de bal attenante à la Maison-Blanche, qui serait pourvue de toutes les technologies sécuritaires, même anti-drones. Il a lui-même alimenté la photo du tireur, ce qui moi m'a renversé en voyant ça hier
notre
soir.
Ami.
C'est comme si, je vais aller tout de suite vers vous, Raphaël Jacob, il doit contrôler tous les récits.
En même temps, là-dessus, d'un point de vue politique, on constate ce matin que c'est sûr que ça fait un petit peu son jeu ce qui se passe. Et là, encore une fois, je vais être très, très clair. Je ne dis en aucun cas que c'est lui qui est derrière ce qui s'est passé hier.
Really? Really?
Mais...
Mais c'est l'inversion. C'est l'inversion.
Je comprends pas le buzz.
La vérité. Pour Radio-Canada, là, vous l'avez entendu, c'est lui la victime.
Oui.
Le gars à Beden de la Californie avec des armes.
Trump l'a rendu fou.
Et là, il l'a diffamé. Il a diffusé sa photo. C'est une photo officielle du FBI. Ouais, il a pas pris ça.
Mais je comprends pas pourquoi. C'est quelque chose... Ils sont renversés du fait qu'il ait publié la photo.
Mais c'est la haine. La haine de Trump va jusque-là.
Oui. Ouais, je sais. Ça va toujours être mal.
Profonde, exactement.
Moi, je me pas.
Exactement.
Cet extrait-là particulièrement...
Mais la création de sens sur ce... sur...
Il n'y a pas de sens, aucun sens, là. Non. Je ne cherche pas de logique.
Mais il s'assise sur quoi? Pour... Je ne comprends pas. Je comprends la haine, double. Tout le reste, je le comprends.
Il n'y a rien à comprendre, Dan.
Sauf que le fait qu'il publie la photo, qu'un président publie la photo d'une victime, je ne comprends pas pourquoi ça ne se fait pas. Je comprends pas.
Ils le détestent tellement qu'à leurs yeux, ils lui portent préjudice.
Il essaie d'être dans la photo, il essaie d'être Trump, à l'avant, c'est ça qu'il dit.
Trump porte préjudice à l'identité de ce gars-là. Il le fait mal paraître et il veut, de ce fait, profiter de ça. C'est un profiteur.
Moi, j'essaie
il peut jamais s'en sortir. Trump, on revient à ça. Ça fait longtemps qu'on le dit, puis je ne suis pas tout seul à le dire. Il le trouverait. Ça n'existera pas, là, mais mettons ça à l'extrême. Il trouverait un médicament contre le cancer, quel que soit le cancer, du sein, de la prostate, peu importe. Puis que c'est lui, là. Ça n'arrivera pas. Mais supposons que ça arrive. C'est un profiteur. Il va faire de l'argent. Il a acheté des actions. Sa famille a acheté des actions de pharma. On le savait, on le sait. Il est proche de la bourse. C'est son chum qui est dans la compagnie. Là, ils vont tenter de trouver une arborescence. Son ancien beau-frère avait fondé cette compagnie-là qui est derrière. On s'en sort pas, Dan. C'est une obsession complètement débile. La chaîne est débarquée à Radio-Canada, puis depuis une mèche, là.
Ben, rappelle-toi quand il a mis...
Donc, ils prennent le tireur en pitié. Oui.
Quand il a mis du cash pour faire avancer le vaccin contre la COVID, t'avais les démocrates, puis des partisans, on va dire, là.
Warp
dans
Speed,
les médias.
C'est lui, Trump. Oui,
dans les médias qui disaient...
C'est un anti-vax.
Moi, ce vaccin-là, je le prendrai jamais.
Il y a ça.
J'y fais pas confiance. Si c'est un vaccin Trump, je veux rien savoir.
Mais il y a d'autres débiles qui disaient Trump, c'est un anti-vax. Christy, c'est pas un anti-vax.
Ah, ça, c'était par après. Mais avant qu'il soit produit,
oui,
il disait ce vaccin-là, je le prendrai jamais, il vient de Trump. Non,
absolument. Ça s'est dit,
non.
Ça.
Oui. Puis par des représentants démocrates. Là.
Mais il y a des profonds débiles qui ont dit que c'était un anti-vax.
Oui.
Alors qu'il avait pris des milliards de fonds publics puis qu'il a donné ça à du pharma pour créer le vaccin. C'est Trump qui est derrière ça. Que vous le vouliez ou non, là, c'est arrivé cette affaire-là. Là.
Si Obama fait la même chose, il y a une tentative de meurtre contre Obama, 30 minutes plus tard, il fait une conférence de presse, il est donc bien courageux. 30 minutes après, t'imagines le trauma quand même. On a attenté à sa vie.
Fait
30 minutes après.
Fait une substantiation de rôle. C'est Obama, Michel à côté.
Le ton est différent, l'analyse est différente.
Qu'il est courageux.
Oui. Puis qu'on le pogne le salaud.
Il a bien
là.
Parlé, parce qu'il a bien parlé, Trump, à la Maison-Blanche après. Là.
Ah, mais justement, le changement de ton.
On aimerait naïvement, oserais-je dire, y croire. Est-ce votre cas? Pensez-vous que ce qui s'est passé hier va entraîner un réel changement de ton de la part du président des États-Unis?
On avait la même chose après la première tentative d'assassinat. Alors ça, pour moi, c'est l'hypocrisie pure et simple.
Rien à ajouter, ça va de soi. C'est-à-dire que oui, les paroles sont belles et elles sont importantes. Le problème, c'est qu'elles viennent d'un émetteur qui n'a absolument aucune espèce de crédibilité sur la question.
Et elle est où votre crédibilité à vous autres? Il est où votre changement de ton? Le soir même du premier attentat, vous étiez en train de blâmer Trump pour ce qui se passait.
Parole
il n'y a jamais eu de changement de ton de leur
part. Parole de sagesse du légionnaire.
Mais c'est parce que pour eux autres, 100% du problème, c'est Trump.
J'ai dit d'ailleurs à Richard Martineau que la Légion, ça existait. Mais j'ai jasé avec avant son show. Il l'a dit au début de son émission, vendredi. La Légion et tout ça, parce que Richard voulait justement qu'on fasse des blocs sur des extraits débiles de Radio-Canada, je veux dire.
Ça fait, là, ça fait des années.
Mais la différence, c'est qu'on ne s'acharne pas sur un individu.
Non.
C'est from coast to coast. Si je trouve un coq-clown à Trois-Rivières, à Québec, à Montréal, radio-télé, on le passe, là. From coast to coast, on ne s'acharne pas sur...
Puis même avant la Légion, ça fait 25 ans que Radio-X fait ça, là.
C'est ça, absolument.
Jeff faisait ça dans le temps du monde parallèle.
Ben, c'est ce que je trouvais drôle.
Oui.
C'est ce que je trouvais le fun. Et ça continue. On continue la tradition.
Que l'on continue!
Que l'on continue.
Continuons!
Ouais, ça, c'est autre chose.
Ah!
comment il s'appelle? Lépine. Jean-François Lépine, qui était aussi dans l'émission de Marie-Louise Arsenault.
Un bon d'Israël.
Et
la Hamas, c'est un groupe de combattants puis de résistants.
Oui, surtout les Chinois.
Les Chinois. Il y a beaucoup de choses louches.
Les Chinois sont...
Mais lui, les gens l'aiment, puis ils viennent y dire à l'aéroport, mais il y a de quoi... qu'il a dit, je pense, involontairement. En tout cas, moi, je vais vous dire comment je le comprends après. Là.
dans un contexte de crise de confiance. Aussi, rappelons que moins de 40 % des jeunes entre 18 et 34 ans au Québec ne font pas confiance aux journalistes, selon un récent sondage. Comment ça va, le journaliste Jean-François? Vous avez raconté une anecdote à notre réalisatrice, ouais. Marie-France Lemaine. Vous étiez à l'aéroport. Il y a un homme qui est venu vous voir.
D'un certain âge aussi, assez chic, qui attend sa valise et qui me dit « Qu'est-ce que vous pensez du monde du journalisme aujourd'hui? » Puis je savais ce qu'il voulait dire. Au fond, il disait « On s'ennuie de gens comme vous. » C'est toujours ça qu'ils disent. Mm. Ils ont l'impression que le monde du journalisme était plus fiable avant, que c'était mieux, que c'était... Pour beaucoup de ces gens-là, d'ailleurs plus âgés, c'est la diversité. Quoi choisir? Comment décider? Comment reconnaître ce qui est fiable ou non, etc.?
Il s'en sert pour se flatter l'ego, là, mais Jean-François Lépine a rencontré un vieux dômien qui s'ennuie du dôme. Qui s'ennuie quand il y avait une version de l'histoire. La vérité venait de la télé et je pouvais tout croire ce qu'il me disait. Là, aujourd'hui, j'ai des faits puis j'ai des versions qui ne concordent pas une avec l'autre. Puis là, je sais pas quoi faire avec tout ça.
Il y a sur Facebook, il y a Bebel News qui me pop. Bebel News, ça me pop.
C'est parce qu'avant, le dôme était opaque. À cette heure, il est devenu un peu plus transparent.
Ben, c'est ça.
Il y avait trois postes.
Là, j'ai des informations qui sont parfois contradictoires, puis je sais pas quoi faire avec ça, je comprends rien. Moi, avant, je voulais une vérité, c'était simple, ce qu'il me disait à la TV, c'était vrai.
Internet de merde!
Oui! Il est temps qu'on réglemente ça.
Ouais! À ce temps-là, on n'avait pas d'Internet. C'était bien compliqué.
On devrait canceller ça.
C'était Ben on the run qui lisait les nouvelles.
T'as parlé de Xavier Bouillette tout à l'heure, j'arrive avec ça, faut que je joue absolument.
Augmenter les taux de natalité, c'est le revers d'une médaille dont la face est l'immigration qu'il juge beaucoup trop élevée. Mm. Ça, c'est déjà un problème en soi qui mériterait d'être discuté parce qu'on a tendance à mettre le PQ, en tout cas à mettre sur le dos de l'immigration, par exemple, crise du logement, crise des services sociaux. C'est une question. La réponse semble évidente. Il n'y a pas de lien entre les deux, mais je ne veux pas nécessairement discuter de ça. Ça nous amènerait dans des zones qui seraient plus techniques. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la question de la natalité. Parce que ce discours de la natalité, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu.
Non.
Et il a été énormément présent au Québec, entre autres, il y a plusieurs années.
Et à l'époque de la grande noirceur.
Tout à fait.
Et avant, quand on obligeait les femmes à faire 12, 13, exact. 14, 17 enfants.
C'est exact. Ça, fille.
Fait, non, mais minute, c'est surtout qu'on amène ça à la grande noirceur, puis on obligeait les femmes à faire... Excuse, j'ai 44 ans, j'ai pas connu cette époque-là. Mais j'ai connu les bébés bonus. J'ai connu Jean Charest qui disait que le Québec était le paradis des familles. Puis le but... On a créé les CPE dans le but que les femmes puissent faire des enfants plus...
Ça n'a pas pogné.
Mais ça a toujours été là.
Ça a décalé des ou ça a plutôt provoqué. Les familles se sont faites.
C'est parce que c'est
dans
pas.
Dans un autre. Comment je veux dire ça? Donc, ça a accéléré. Prenons un exemple. J'aime les exemples concrets. Mettons un petit couple, 35 ans. Mettons 32. On pensait faire un enfant dans 2 ans. Ah, notre bonus, on va le faire là. Ils ont devancé.
Ouais.
Ils ont devancé.
Mais ils n'ont
pas fait plus. Il y a eu un décalage.
Au début des années 2000, les femmes attendaient d'être bien établies, bien en selle avant de faire des enfants.
Comme ça,
on voyait souvent... Mais aujourd'hui, là, il y en a beaucoup qui ont des enfants 22-23 ans. Là. C'est quand même...
À documenter, Dan.
Ouais.
Peut-être qu'on a cette impression-là.
Parce que je pense que tout a été...
Ça prend des chiffres.
Tout a été décalé, en fait. Là.
Ça me prend des chiffres.
Les femmes vont à l'université, puis les hommes aussi. Là. C'est, je sais, avant
d'établir puis de faire un peu de bacon avant.
Avant d'avoir le premier char, la première maison, puis l'enfant, tout a comme été décalé dans
ça
le temps.
Ça coûte cher.
Ça vient tout plus tard.
Tu peux pas faire un enfant et rester à la maison. Je sais pas pour moi-même, mais ça coûte cher, Dan, c'est ça que je te dis.
Ouais, non, je comprends,
c'est
mais...
l'histoire de l'appartement, les chars...
Peut-être pas
les
cette année, mais aux alentours de 2010, puis je capotais. Tu sais, j'ai travaillé dans un autre employeur, puis les filles, puis ils rentraient après le cégep, puis un an après, t'es en congé de maternité, non?
Bien, il y a quelqu'un qui soulève le point. Peut-être l'arrivée du RQAP 2006. Il y a 20 ans.
Mais ça pour dire que...
Peut-être.
On était dans une chronique woke à fond, puis on cochait toutes les cases.
Par exemple, on parlait des nouveaux médias. Le phénomène Tradwives est énormément présent. Donc, ces personnes peuvent peut-être vouloir avoir des enfants, mais derrière ça, qu'est-ce qui est en opération? Qu'est-ce qui se trame? C'est cette idée selon laquelle le socle inamovible, si on veut, de la société, qui rend possible la nation, c'est la famille. Une famille qui est très souvent quand même hétéronormative, mais au-delà même de ça, une famille qui est fondée sur le fait de produire des enfants. Parce que dans nos sociétés, la production l'éducation est essentielle, la croissance, et cette croissance, cette fertilité, si on veut, économique, ben, elle se répercute aussi sur la manière dont on pense le rôle des femmes. Ben, je pense que là, ici, le PQ devra préciser qu'est-ce qu'il entend par politique nataliste. Parce qu'au contraire, même dans un enjeu écologique, il y a des gens qui vont soutenir l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas augmenter la population, mais viser une dénatalité pour viser la décroissance.
Il faut viser la décroissance.
Pour viser la décroissance.
C'est l'individu le plus délirant que j'ai entendu. Là, t'as pas la réplique de Rousseau,
invité...
là, c'est un
ben,
peu...
je l'ai, mais on n'a pas le temps. Mais c'est un invité fréquent de Radcan, là, ce gars-là.
Avertissement avant d'aller à pause. Il va falloir que j'ai passé le message aussi, là, que le PQ se surveille. Hein. Parce que la machine de propagande QS, elle est lancée, là.
Oui.
Je le sais qu'il y a des vieux vidéos qui circulent, Bernard Landry, la propagande de Radio-Canada. Bernard Landry, autre temps, autre lieu. Mais ça se poursuit dans un autre cadre, un autre spectre idéologique. Le PQ va se faire piler dans la face
par les woke,
par l'antenne de Radio-Canada.
Oui.
Il faut que le DGEQ porte surveillance à ça, là. Parce que c'est une antenne... Ici, tout est calculé en passant, là. Arrivez-moi pas avec la chanson. Vous êtes conservateur, tout ça. Non, non, tout est calculé. Nous autres, on peut pas inviter du M 8 fois, là. En campagne. Tout est calculé, les interventions sont timées.
Ben, toutes les fois qu'on invite du M, il faut qu'on envoie une invitation aux autres.
Exact. Il faut garder ça. Bien souvent, on se fait dire non. Des fois, on se fait dire oui, mais il faut tout que ça soit. Mais eux autres, c'est feu à volonté. Là. La dernière campagne, d'ailleurs, provinciale, il n'y avait aucun conservateur sur les panels.
Non.
Il faut que ton panel soit équilibré. Adrien Pouliot était dispo là, pour y aller, là. Les panels. Jamais il a été invité. Là. Donc, le DGEQ devra apporter une attention particulière à cette antenne-là, parce que je vous le dis, en termes de couverture journalistique, ça vaut des centaines de milliers de dollars, là, ce qui va arriver là, en faveur de QS. Donc, c'est une antenne partisane, publique, anti-PQ. Moi, je ne suis pas PQ. Là. Mais si le PQ tient à avoir une couverture équitable, moi, je pense qu'ils doivent interpeller plutôt que tard, le DGEQ, on va à la pause.
Morin. T'as quelque chose à dire?
Ça va bien aller.
Tu veux réagir? 418-670-9098. Radio X.
Legion of Doom, présenté par RA+. Climatisation, thermopompe, installation et réparation rapide. Un service clé en main. AIRA+.ca.